France Culture.
C'est le journal de la rédaction. Julie Paco, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à tous. Le réveil du multiculturalisme pour résoudre les défis mondiaux, c'est ce qu'espère Cyril Ramaphosa, le président sud-africain qui a ouvert le G20 ce matin à Johannesburg, un G20 boycotté par Donald Trump. Mais le grand absent est bien sûr au cœur des discussions des grandes puissances. Après la publication de son plan en 28 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine, un plan qui accapare les pourparlers entre dirigeants européens en marge de ce sommet. Le réveil contre le narcotrafic, c'est ce que souhaite Amine Kessassi. Après l'assassinat de son petit frère, Mehdi, une marche blanche débute à 15h à Marseille en présence de nombreux responsables politiques. Le sursaut aura-t-il lieu? On posera la question à notre invitée, la journaliste indépendante Siam Spencer. Le G20 s'est donc ouvert ce matin face à un auditoire clairsemé et des absences remarquées. Celle du président chinois Xi Jinping, celle de Vladimir Poutine visée par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale ou encore celle de Donald Trump. Le président américain en conflit ouvert avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa boude donc ce sommet qui se tient pour la première fois en Afrique. Car les priorités de ce G20 qui rassemble 19 pays regroupant les deux tiers de la population mondiale vont à l'encontre des objectifs politiques américains. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
En direct de Johannesburg pour France Culture, dans ce contexte particulier, donc, le président sud-africain a rappelé ses priorités à l'ouverture de ce sommet.
Oui, autour de la table ce matin, une chaise en moins, celle des Américains, celle de Donald Trump, qui depuis des mois a tout fait pour saboter ce sommet avant de le boycotter. L'agenda fixé, climat, solidarité, est jugé anti-américain par Washington. Alors en ouverture, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a eu des mots de résistance et un message adressé à Donald Trump, mais à distance.
Nous ne devrions pas permettre que quoi que ce soit diminue la valeur, la stature et l'impact de la première présidence africaine du G20. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne peuvent être résolus que par la coopération, la collaboration et les partenariats.
Le président sud-africain qui prêche pour le multilatéralisme, mais devant une salle en partie désertée, les présidents argentins et chinois aussi absents. Alors lors de son discours en séance, Emmanuel Macron, lui, a remis en cause la pertinence même de ce format du G20 qui réunit Européens, Russes, pays des BRICS, Américains. Le G20 ne règle plus les crises, dit-il. Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur un standard commun. Alors les pays présents ont bien adopté une déclaration commune, mais qui n'avance pas, par exemple, sur la question du climat par rapport au G20 de Rio de l'an dernier. C'était le meilleur accord possible, commente laconique une source diplomatique française.
Mais ce sommet est bien évidemment percuté, Marie, par la guerre en Ukraine et le plan proposé par Donald Trump pour y mettre un terme.
Oui, même à distance, depuis la Maison-Blanche, Donald Trump a bousculé l'agenda du sommet. Avec ce plan dévoilé cette semaine, largement aligné avec les exigences du Kremlin et négocié dans le dos des Européens pris de court et qui tente de s'organiser pour pousser des contre-propositions. Les leaders européens présents au G20 ont donc prévu de se réunir ici à Johannesburg en marge du sommet en début d'après-midi. En ce moment, Emmanuel Macron est en train de s'entretenir avec ses homologues français et britanniques. Ce matin, échange avec le Premier ministre canadien. Avec cette question, de quelle marge de manœuvre dispose-t-il alors que Donald Trump a lancé un ultimatum à Kiev et le presse d'accepter ce plan d'ici le 27 novembre, sous peine de lui couper la fourniture d'armes et de renseignements.
Marie Mollet avec Geoffrey Marianne aux moyens techniques en direct de Johannesburg, où on le disait, la présidence sud-africaine a donc axé ce G20 sur l'importance du multilatéralisme et les problématiques spécifiques aux pays en développement. Parmi elles, les inégalités économiques ou encore l'allègement du poids de la dette. Or, près de la moitié des pays les plus inégalitaires du monde sont situés en Afrique. D'après un rapport commandé par l'Afrique du Sud à une commission dirigée par Joseph Stiglitz et remis en amont de ce G20. Les explications de Marie Viennot.
L'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde quand on s'appuie sur l'indice de Gini. En Afrique, Namibie, Botswana, Angola, Mozambique sont juste derrière. Cependant, cet indice ne permet pas d'appréhender la concentration extrême de la richesse en haut ou de la pauvreté en bas de l'échelle, rappelle le rapport rendu par Joseph Stiglitz. Or, ce fossé, dans l'ancien pays de l'apartheid, est énorme. Selon une étude menée il y a un an par des économistes africains et américains, en moyenne, le patrimoine d'un d'un ménage noir sud-africain représente 5% de celui d'un ménage blanc. Inégalité raciale que l'on retrouve d'ailleurs aux États-Unis où ce chiffre passe à 6%. Autre parallèle intéressant entre les deux pays, l'Afrique du Sud arrive en tête du continent africain pour le nombre de milliardaires et de millionnaires. Les milliardaires sont 8 en Afrique du Sud, 7 en Égypte, 4 au Maroc et 3 au Nigeria. Dans ses recommandations pour lutter contre les inégalités, le rapport de la commission Stiglitz rappelle que les transferts illégaux liés à la criminalité ou l'évasion fiscale privent chaque année les gouvernements africains de 89 milliards de dollars de recettes. Pour y remédier, ce rapport recommande notamment la création de plateformes de données centralisées et sécurisées pour que les juridictions puissent échanger des informations économiques et financières. Car les tentatives menées en ce sens par l'OCDE restent toujours partielles et insuffisantes pour enrayer l'évasion fiscale des plus fortunés.
Marie Vienno, et ce G20 à Johannesburg doit s'achever demain. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, placé en détention provisoire ce matin, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État et placé en résidence surveillée depuis le mois d'août. Un juge de la Cour suprême brésilienne a voulu empêcher un risque de fuite de l'ex-chef d'État. La CFDT de Carrefour, déboutée par le tribunal judiciaire d'Évry, dans l'Essonne. Le syndicat avait engagé une procédure en mars 2024 contre la stratégie du géant de la distribution, visant à basculer de plus en plus de magasins en franchise et location-gérance, ce qui permet entre autres de léguer certains coûts, comme les salaires, à un commerçant indépendant. Depuis 2018, 344 supermarchés, sur les quelques 4500 que compte Carrefour, sont ainsi passés en location-gérance. Un plan social déguisé, d'après la CFDT, qui réclamer 23 millions d'euros d'indemnisation pour les salariés. Et le syndicat Loumomège compte bien poursuivre sa bataille judiciaire.
Déçus mais pas surpris, les membres de la CFDT Carrefour ont conscience de l'ampleur du dossier. 27 000 salariés sont concernés par ces passages en location-gérance. Dans sa procédure, le syndicat estime que ce modèle dégrade les conditions de travail des employés, en plus d'amputer leur salaire de près de 2 500 euros par an. La justice estime toutefois que le lien entre le changement de statut des magasins et ses préjudices n'est pas démontré de manière circonstanciée et objective. Et malgré la décision du tribunal judiciaire d'Évry, tout n'est pas perdu pour Sylvain Massé, secrétaire national à la Fédération des services CFDT.
Nous, on constate que le juge reconnaît le bien fondé de notre argumentation sur l'abus de la liberté d'entreprendre, mais que quelque part, il dit que les pièces communiquées à ce stade n'étaient pas suffisantes pour prouver la réalité de l'abus commis par Carrefour. Donc nous, on n'a pas cette appréciation là des faits. On pense qu'on a effectivement un certain nombre d'éléments qui nous permettent en tout cas de faire appel, parce qu'on pense que notre dossier est suffisamment étayé et mérite en tout cas un deuxième jugement.
De son côté, Carrefour se félicite de la décision du tribunal et annonce que les passages de magasins en location-gérance se poursuivront en 2026. L'enseigne redit toutefois son attachement au dialogue social et assure que ce modèle a permis de sauver de nombreux magasins et emplois dans un contexte de concurrence accrue.
Se réveiller face à l'ampleur du narcotrafic, c'est l'appel lancé par Amin Kessassi, militant écologiste engagé dans la lutte contre le trafic de drogue et dont le petit frère a été assassiné la semaine dernière à Marseille. Une marche blanche y débute à 15h sur le rond-point Claudie Darcy dans le 4e arrondissement de la ville, là où Mehdi, 20 ans, a été abattu par deux hommes à moto. Un mort pour rien et un crime d'intimidation, d'après le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. D'autres rassemblements sont prévus dans plus d'une vingtaine de villes en France. Bonjour Siam Spencer.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante à Marseille, où vous travaillez notamment sur le narcotrafic. Vous avez écrit La Laverie, parue l'année dernière aux éditions Robert Laffont. Après 49 narcomicides à Marseille en 2023 et deux fois moins en 2024, pour quelle raison l'assassinat de Mehdi Kessassi a un tel retentissement ?
Mais parce que c'est un symbole en fait de la violence qui peut s'abattre sur une même famille, parce que c'est le deuxième frère d'Amin Kessassi qui est décédé dans le cadre d'un assassinat perpétré par des narcotrafiquants. Et donc derrière, en fait, ça a été un énorme choc, je pense, pour la ville de Marseille, qui s'est étendue au-delà. Et puis aussi parce que dès le début, il y a ce soupçon de procédure ou de manière de faire très mafieuse ou pour faire taire quelqu'un qui s'exprime énormément sur la violence du narcotrafic et sur son fonctionnement, on s'en prend à sa famille et ça fait penser à des pratiques en fait des années 70 à Marseille et je pense que ça a beaucoup choqué pour ça aussi et au-delà de ça, ça reste une figure quand même très identifiable à Amine Kessassi à Marseille et donc ça en est d'autant plus choquant quoi.
Pensez-vous que les Marseillais qu'Amine Kessassi appelle à se lever aujourd'hui seront nombreux à participer à cette marche blanche où finalement la peur peut prendre le dessus, notamment chez les riverains, les habitants du 4e arrondissement?
Moi, je pense qu'il va y avoir du monde aujourd'hui. La peur, en fait, elle est déjà là au quotidien. Et c'est justement sur des moments comme celui-là où on peut se rassembler et où il y a aussi, malgré tout, des moyens de sécurité qui sont mis en place, que les gens vont vouloir venir, que les gens vont vouloir aussi afficher leur peine. Alors, par rapport à ce drame-là, mais par rapport aussi au drame du quotidien qu'ils peuvent rencontrer quand même très fréquemment. Et je pense pas qu'à ce moment-là, les gens vont avoir peur. Je pense que par contre, depuis presque une dizaine de jours, maintenant, les gens ont peur dans leur quotidien et que c'est plus là, même pour des gens qui ne sont pas forcément confrontés au narcotrafic ou qui ne sont pas riverains d'un point de deal, on y pense plus, en fait.
Ce qui est sûr, c'est que les représentants politiques, eux, seront nombreux avec des personnalités de tous bords attendues cet après-midi. Comme s'il fallait finalement cet assassinat de Mehdi pour qu'ils prennent conscience, ces responsables politiques, de la gangrène que constitue le trafic de stupéfiants. Un narcotrafic symptôme d'une société détraquée, écrit Philippe Pujol dans Libération cette semaine. Ce journaliste pris Albert Londres, qui enquête depuis plus de 10 ans sur ses enfants cramés, dit-il, sacrifiés sur l'autel du narco-capitalisme. Pour quelles raisons, Siam Spencer, les réponses répressives, sécuritaires, apportées par les gouvernements successifs ces dernières années ne parviennent pas à endiguer durablement le narcotrafic?
Parce qu'en fait, c'est pas par ce bout-là qu'il faudrait prendre le souci. Vous en parliez tout à l'heure, donc le livre La Laverie, c'est parce que j'ai vécu moi dans un quartier où ma fenêtre donnait sur un point de deal. Et en fait, en y étant comme ça aussi près, ou même c'est ce que soulève Philippe Pujol, c'est que le problème, il est avant tout social. Et le narcotrafic, il se nourrit en fait d'une problématique sociale et de précarité et de tout ce qui peut s'abattre sur certaines cités en France, dans des grandes villes comme Marseille, mais aussi dans des petites villes, à Nice ou même à Cavaillon, à Nîmes. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que le narcotrafic réussit à proliférer. Or, derrière, en termes de politique publique, on a peu de choses qui sont faites, un petit peu de rénovation urbaine dans certaines villes, mais ça va pas au-delà. On donne pas beaucoup de moyens dans tout ce qui est éducation, beaucoup de moyens aux associations qui sont sur place, qui essayent de tenir justement ou d'aider les jeunes des quartiers à ne pas tomber dans le narcotrafic avec mes 3 bouts de ficelle. Et en fait, c'est parce qu'il y a pas ces moyens-là qui sont mis sur le temps long, qui est moins intéressant finalement politiquement pour les politiques en tout cas, que du coup, derrière, on se retrouve avec des situations qui sont ingérables en termes de violence, mais parce qu'on laisse faire, en fait, on laisse finalement la précarité gangréner les quartiers. Et en fait, le narcotrafic, il n'a plus qu'à venir s'installer dessus et dire « moi, je peux vous donner une vie meilleure parce qu'avec moi, vous aurez de l'argent et derrière... » Ça fonctionne, quoi.
Alors, plusieurs journalistes ayant enquêté sur le narcotrafic à Marseille sont aujourd'hui menacés de mort et sous surveillance policière, sous protection policière. Comment vous réussissez à poursuivre votre travail journalistique de manière indépendante en garantissant votre propre sécurité ?
Alors, c'est un travail d'équilibriste parce qu'il faut sans arrêt... tâter la température, on va dire, du côté du narcotrafic pour voir si soi-même on n'est pas en danger et trouver le juste milieu entre décrire le narcotrafic sans non plus se mettre en danger parce que la difficulté c'est aussi d'être indépendant dans mon cas et donc de pas avoir forcément une rédaction qui peut me soutenir ou même quelqu'un à qui parler si jamais un chef quoi à qui parler si jamais j'ai la moindre problématique mais ça en fait c'est une problématique chez les journalistes, mais qu'on peut retrouver aussi chez des associatifs qui, là, dernièrement, pour certains, ont peur aussi. Mais je pense que ça va se tasser, parce que là, tout le monde est encore sous le choc malgré tout. Mais c'est un jeu d'équilibriste pour tout le monde, quoi.
Merci beaucoup, Siam Spencer. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante à Marseille et autrice de La Laverie, enquête dans le quartier des Moulins à Nice, publiée l'année dernière chez Robert Laffont. Autre mobilisation prévue aujourd'hui dans des dizaines de villes en France, celle contre les violences faites aux femmes qui sont en hausse. Le nombre de féminicides a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 et toutes les deux minutes, en France, une femme est victime de viol, de tentative de viol ou d'agression sexuelle, d'après la mission interministérielle pour la protection des femmes. 6 ans après le Grenelle des violences conjugales, le collectif Grève Féministe, qui rassemble une soixantaine d'associations, exhorte l'État à révolutionner sa politique contre les violences masculines. Un mot de météo avec des températures encore très froides cet après-midi. Entre 0 et 4 degrés sont attendus sur les deux tiers nord du pays, avec des flocons au fil de l'après-midi de la Normandie, puis sur les Hauts-de-France et l'Île-de-France et du centre-Val-de-Loire au Limousin. C'est la fin de ce journal préparé avec Brice Garcia, Paul Guigue à la technique.